La CPTS des Bauges, la boussole qui guide votre santé vers de nouveaux sommets.
Le matin, j'ai mal au crâne, je me lève, j'ai mal au crâne, je me couche, j'ai mal au crâne.
Ah, c'est embêtant.
Désolée, je viens pas ce soir, j'ai la migraine. Une phrase qu'on a tous déjà entendue, ou peut-être déjà utilisée. Pour décliner un dîner, éviter une soirée trop bruyante, ou tout simplement rester tranquillement à la maison. Et puis, il y a le grand classique. Pas ce soir, chérie, j'ai mal à la tête. La migraine fait presque partie du langage courant. On l'évoque parfois avec humour, comme une petite formule pratique pour lever le pied. Mais au-delà de l'expression un peu amusante, que se passe-t-il vraiment quand la tête se met à battre au rythme de la migraine? Car la migraine n'est pas qu'un simple mal de tête comme les autres. Elle touche des millions de personnes et peut parfois venir bousculer le quotidien. D'où vient-elle? Pourquoi certaines personnes y sont plus sensibles que d'autres? Et surtout, comment reconnaître une vraie migraine et trouver les moyens de la soulager? Autant de questions qui méritent qu'on s'y arrête, sans se prendre la tête.
On parle de prise de tête, ce qui nous amène aujourd'hui à parler de maux de tête avec la CPTS, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé des Bauges. Et pour ça, je reçois Maude Duchesne, infirmière libérale et présidente de la CPTS. Bonjour Maude.
Bonjour.
Catherine Gou, infirmière libérale et vice-trésorière de la CPTS. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Et Edmond Guillot, qui est le coordinateur de cette CPTS. Bonjour Edmond.
Bonjour.
Merci à tous d'être là. Donc comme je le disais, on va parler prise de tête, pas entre nous bien évidemment, mais on va surtout parler maux de tête. Et Maud, il y a quelque chose, une question que je me pose, c'est qu'à chaque fois qu'on a mal à la tête, on dit qu'on a la migraine. Est-ce qu'il y a différents types de maux de tête ou est-ce que tout est migraine?
Alors non, tu as raison, il y a différents types de maux de tête et aujourd'hui on va parler spécifiquement de la migraine. Un maux de tête standard, voilà, ça peut se serrer sur la tête, etc. Mais il est vraiment à dissocier de la migraine qui a des symptômes bien particuliers. Alors pour savoir si c'est vraiment une migraine, qui est effectivement dans la maladie qu'on appelle des céphalées, hein, des maux de tête, une migraine, elle va être déjà d'une intensité qui va être variable et souvent très forte. Donc l'intensité est vraiment forte. Elle est récurrente, donc ça veut dire qu'elle revient de façon très régulière. Et surtout, il y a cette sensation où ça tape, elle est pulsatile. Et quelque chose qui vraiment pointe la migraine, c'est qu'elle est unilatérale, donc que d'un côté de la tête. Et souvent, elle peut être aussi accompagnée de symptômes digestifs ou neurologiques variés, mais ça, on reviendra dessus tout à l'heure.
Donc quand on dit qu'on est migraineux, c'est qu'on a une maladie migraineuse, en fait?
Oui, c'est ça. En fait, la maladie migraineuse, on la définit surtout par la répétition des crises de migraine. Donc, c'est-à-dire que ces maux de tête, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'intensité forte, récurrente et pulsatile, et que d'un côté, elles reviennent de façon assez fréquente.
Et est-ce que le fait d'avoir des migraines va faire que c'est une maladie qui va dégénérer plus tard?
Alors non, c'est important de le dire, la maladie migraineuse, c'est une maladie qui est physiologiquement bénigne. Voilà. Mais elle altère beaucoup la qualité de vie. Donc elle ne va pas évoluer dans le sens où il y a quelque chose qui va s'aggraver, si ce n'est que tu peux faire des crises de plus en plus fréquentes. Mais au-delà de ça, elle reste bénigne, ouais.
Et il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par cette migraine?
Eh bien quand même, il y a à peu près 12% des adultes qui sont touchés par la migraine. Et chose qu'on sait un petit peu moins, c'est qu'il y a 5 à 10% des enfants qui le sont également. Donc ça fait à peu près 11 millions de personnes. Et c'est une maladie qui touche beaucoup plus les femmes que les hommes. Environ 2 femmes pour 3 hommes, pardon, sont touchées. Et alors qu'un tiers des malades aussi n'ont jamais consulté et beaucoup ont recours à l'automédication.
Donc on considère que c'est quelque chose qui fait partie de la vie et sur lequel on ne va pas voir un médecin.
Ouais, effectivement, c'est ça. On banalise en fait beaucoup la crise migraineuse.
Et alors, comment on peut expliquer ça? C'est un châtiment divin?
Non, il y a une explication quand même physiologique. Alors c'est vrai que c'est intéressant de comprendre comment marche une crise migraineuse. En fait, c'est surtout une hyperexcitabilité électrique des neurones. Et c'est souvent dû à des prédispositions génétiques ou des facteurs environnementaux. On reviendra dessus tout à l'heure. Mais ce qui caractérise vraiment la crise migraineuse, c'est la douleur.
Et cette douleur-là, elle est liée à quoi ?
Alors, cette douleur, elle est liée à la dilatation des vaisseaux du cerveau et notamment des artères des méninges. Les méninges, en fait, c'est une membrane qui protège le cerveau, donc en dessous de la cavité des os, enfin du crâne, en dessous, tu as ce qu'on appelle les méninges. Et c'est une dilatation, en fait, anormale des vaisseaux des méninges qui provoque la douleur. Donc, en fait, la maladie de la migraine, elle résulte d'un phénomène qu'on appelle neurovasculaire.
Donc, si c'est pas un châtiment divin, Catherine, ça veut dire qu'il y a des facteurs qui peuvent déclencher ces crises de migraine.
Oui, il y a des facteurs qui peuvent les déclencher et sont très différents d'une personne à une autre. Il y a une liste qui n'est pas exhaustive. Donc, la consommation de certains aliments excitants, donc on pense café, thé, chocolat, vin, surtout plus le vin blanc que le vin rouge, l'alcool. Il y a aussi des facteurs sensoriels, bruit, odeur, lumière. Le changement de rythme de vie, ben comme d'habitude, le stress, une forte contrariété, les facteurs hormonaux, donc on pense tout de suite chez la femme au cycle menstruel, donc c'est ce qu'on appelle une migraine dite cataméniale ou menstruelle, c'est plus simple pour nous, et aussi les conditions météorologiques, surtout le changement de pression atmosphérique.
Ok, donc changement de saison, bim, migraine.
Pas systématiquement, ça dépend tout des personnes, tout le monde n'est pas sensible aux mêmes facteurs déclenchants. Et les gens, à force d'avoir des crises, connaissent ce qui va leur déclencher une crise.
Et alors justement, si on vit avec, c'est qu'en général, on connaît les symptômes. Edmond, est-ce que tu pourrais nous dire quels en sont les symptômes de cette migraine ?
Alors la douleur migraineuse est modérée ou intense, mais comme l'a dit Maud tout à l'heure, elle est toujours pulsatile. Sa survenue est précédée d'une phase d'irritabilité ou de fatigue, qui est bien connue des personnes qui ont des migraines régulièrement. Et elle se manifeste généralement d'un seul côté de la tête, au niveau d'une tempe, au-dessus de l'œil. Le côté atteint peut varier d'une crise à l'autre. Ce n'est pas nécessairement tout le temps du même côté. Et dans 30% des cas, la douleur ressentie, elle est ressentie sur les deux côtés ou à l'arrière du crâne.
Et cette douleur, elle va passer rapidement? C'est quelque chose qui est long dans la durée?
Alors la douleur, elle progresse en général rapidement et atteint son maximum entre 2 et 4 heures. Elle peut, quand elle survient la nuit, réveiller en fin de nuit. Et effectivement, elle est aussi aggravée par des activités physiques quotidiennes. Mouvement de la tête, par exemple, ou une toux à la sortie de l'hiver, ou alors simplement un exercice physique ponctuel intense, comme monter des escaliers, par exemple, rapidement. Donc un exercice physique ponctuel intensif peut effectivement aggraver la migraine.
Et dans ce cas-là, quelles sont les solutions alors ?
Une des solutions, c'est effectivement le calme, la pénombre, pas nécessairement l'obscurité, mais le manque de lumière intensive, finalement une situation de repos et de calme qui souvent peut être bénéfique pour calmer la migraine.
Maud disait tout à l'heure que c'était pas uniquement des symptômes qui s'étaient liés au mal de tête, comme on le dit. Quels sont les autres symptômes qui peuvent identifier une crise migraineuse ?
Des symptômes digestifs, par exemple. Si elle est intense, elle peut s'accompagner de nausées, de vomissements. Ça peut aussi provoquer une pâleur du visage, un bâillement, une fatigue soudaine très très forte, des troubles de la concentration, de l'humeur, c'est-à-dire une sorte de spleen finalement, de tristesse intérieure, et puis des sensations vertigineuses. En fait, la crise de migraine, elle peut s'accompagner de sensations de perte d'équilibre, de flottement et plus rarement de vertiges importants qu'on appelle à ce moment-là migraine vestibulaire.
Et moi, la seule fois de ma vie où j'ai eu une migraine qui a été identifiée comme telle, juste avant, j'avais l'impression d'avoir perdu une partie de mon champ visuel. Maud, est-ce que ça fait partie des choses qui peuvent accompagner une crise migraineuse ?
Oui, alors il y a une fréquence qui est quand même assez importante de migraines, qu'on appelle des migraines avec aura. Alors, A-U-R-A, hein, avec l'aura. Et en fait, ces symptômes vont arriver un petit peu avant la crise migraineuse, entre 30 minutes et une heure, des fois un peu plus, où tu as cette sensation un petit peu de flottement, un peu laiteuse, où tu peux avoir des troubles visuels, un point lumineux ou une tache colorée devant les yeux, enfin voilà, des petits problèmes au niveau ophtalmique. Des troubles sensitifs aussi, tels que des picotements, tu vois, au bout des doigts ou des lèvres, c'est des petits signes précurseurs. Des petits problèmes de langage aussi, avec une difficulté à trouver les mots, une sensation un petit peu étrange comme ça, qui fait que tu n'es pas comme d'habitude, tu n'as encore pas de douleur, la crise n'est encore pas là, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche et que ça va arriver. Et effectivement aussi, bah, comme le disait Edmond, ça peut être déjà des troubles de l'équilibre ou des vertiges. Alors, ces crises de migraine avec aura sont trois fois moins fréquentes qu'une crise de migraine standard, mais quand même c'est très très fréquent de les avoir, et souvent même, alors on ne parle pas de migraine avec aura, mais ces mêmes symptômes, on les retrouve souvent après la crise migraine aussi.
Et alors là, tu parles déjà de l'après-crise migraineuse, ouais. Mais une migraine, entre le moment où on se dit « tiens, je commence à avoir mal à la tête », quelle va être son évolution ?
Est-ce qu'on a envie que ça passe vite en
général ? J'imagine.
En général, la crise, elle passe toute seule. Au bout de quelques heures, la douleur, elle va cesser. Alors, soit parce que tu as pris quelque chose ou pas, elle va passer plus ou moins rapidement, avec une intensité plus ou moins forte. Elle peut être courte, mais très, très intense. Hein. Chez environ 10% des cas, des personnes, la crise, elle peut durer plus de 2 jours. Et c'est de plus en plus fréquent, en fait, que les personnes aient des crises migraineuses longues. Et avec une sensation de fatigue et des difficultés de concentration, comme je le disais, qui font suite à cet épisode, avec toujours un petit peu ces troubles où tu sors de quelque chose quand même de très intense et de très violent pour ton corps. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que les patients qui sont sujets à la migraine, ce sont des douleurs tellement fortes, puissantes et invalidantes qu'on a tendance à s'automédiquer et à prendre beaucoup de médicaments. Sur le moment, en fait, on se dit la seule chose qui compte, c'est d'être soulagé. Et il y a vraiment un point de vigilance à avoir là-dessus, mais on reviendra un petit peu plus tard sur l'émission sur les médicaments. Mais dans l'évolution de la crise, voilà, faire attention à la prise de médicaments qui peut être trop importante.
Tu l'évoquais tout à l'heure, Maud, le cas rare, enfin méconnu, c'est celle de la migraine chez l'enfant. Et Catherine, il y a des symptômes qui sont assez spécifiques chez l'enfant.
Oui, il y a des symptômes plus spécifiques. Elle dure moins longtemps, elle est plus souvent des deux côtés, bilatérale, mais elle est surtout marquée par des troubles digestifs. C'est beaucoup plus les troubles digestifs, ce qu'on appelait autrefois la crise de foie. Et c'est vrai qu'il ne faut pas la sous-estimer, parce que ça peut orienter que la personne va être migraineuse adulte, et de pouvoir anticiper les facteurs déclenchants et un mode de vie plus adapté pour éviter les crises.
Alors que ce soit chez l'enfant, quand on est parent, on se dit qu'il faut que ça passe rapidement, ou chez l'adulte. Catherine, quels sont les bons gestes qu'on peut mettre en place quand on commence à avoir une migraine ?
Dès qu'on commence à ressentir les débuts de la migraine, alors les gens qui sont migraineux connaissent les symptômes précurseurs de la crise, donc c'est tout de suite, autant faire ce peu, hein, si c'est possible, de se mettre au calme, à la pénombre, de mettre du froid sur le front, alors gants de toilette froid ou glace, mais pas directement sur la peau pour ne pas se brûler, et de bien s'hydrater. Et surtout s'il y a des vomissements associés pour éviter la déshydratation.
Et Edmond, Maud évoquait le fait que c'était une douleur qui était tellement intense qu'il fallait absolument que ça passe rapidement. J'imagine que dans ce cas-là, le geste médicamenteux est le premier geste. Qu'on peut faire ?
Absolument, puisque c'est, comme le disait Maud, une priorité. Je crois que la priorité sur ce type de pathologie, c'est de faire passer la douleur rapidement. Et pour soulager cette douleur, on peut utiliser un des deux types de médicaments antalgiques utilisables en automédication. Le paracétamol, qui n'a pas d'action sur les signes annonciateurs de la crise et qui a une efficacité assez modérée sur la douleur migraineuse, et surtout des anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc ce qu'on appelle les AINS, mais l'ibuprofène, que tout le monde connaît, qui est plus efficace, mais pour lequel il ne faut pas dépasser 5 jours de traitement. En général, comme le disait Maud tout à l'heure, la douleur passe assez rapidement à partir du moment où on a pris un médicament. Mais par contre, il y a un point qui est très important, comme d'habitude, je dirais, c'est de penser quand même à demander conseil à un professionnel de santé, que ce soit le pharmacien, que ce soit son médecin traitant, parce que voilà, la migraine, c'est quelque chose de sérieux, et la prise de médicaments aussi. Donc il faut être prudent et se faire conseiller par un professionnel de santé.
Si faire chier ta coutume, un jour c'est clair, tu boufferas le bitume. Si t'as pas compris ce soir, je te fais goûter un bout du trottoir. Fallait pas stationner sur mes souliers, ça provoque la migraine. Fallait pas stationner sur mes souliers, ça provoque la migraine. Si la bière t'a rond amer, faut éviter le dernier verre. Galère en allant lui cracher tes glaires, en bavant la mousse de ta bière. Fallait pas stationner sur mes souliers, ça provoque la migraine. Fallait pas stationner sur mes souliers, ça provoque la migraine. Si la bière t'a rend amer, faut éviter le dernier verre. Ça provoque la migraine. Fallait pas stationner sur mes souliers, ça provoque la migraine. Fallait pas stationner sur mes souliers, ça provoque la migraine. Fallait pas stationner sur mes souliers, ça provoque la migraine. Si la bière t'a rend amer, faut éviter le dernier verre. T'abuseras encore longtemps, mais t'as remis la gueule à terre. Quand de rien ne te résonne, ne t'étonne plus que l'on t'assomme.
C'est la boussole santé avec la CPTS sur Radio Alto. Est-ce qu'il y a un moyen de prévenir des crises de migraine ?
Alors oui, c'est tout un contexte, puisqu'on l'a expliqué un petit peu tout à l'heure, la crise migraineuse, il y a plusieurs facteurs, et on va agir sur ces facteurs déclenchants. Donc principalement, ça va être le sommeil, avoir un sommeil régulier et suffisant, puisque la crise migraineuse peut être déclenchée, comme on l'a dit tout à l'heure, soit par des émotions, qui peuvent être aussi des émotions joyeuses, hein, c'est pas forcément, voilà, mais c'est un changement de rythme, comme le disait Catherine. Faire régulièrement de l'exercice, et on le répète à chaque fois, ce qui ne veut pas dire faire du sport, mais c'est faire de l'activité physique, être dynamique et endurant pour que le corps soit quand même en éveil et le métabolisme soit le plus actif possible. Avec des activités plutôt douces, hein, ça peut être de la marche rapide, du vélo, voilà. Si on fume, de toute façon, c'est pas que pour la migraine, mais pour plein d'autres sujets, sans être moralisateur, on sait que le tabac, c'est pas le meilleur atout pour la santé. Une alimentation équilibrée, alors on développera pas aujourd'hui l'alimentation, parce que c'est très très vaste, mais on peut vraiment agir sur des mécanismes inflammatoires, etc. Et sur une protection, une préservation du cerveau avec l'alimentation, y compris des supplémentations en oméga, il y a des grands travaux qui sont faits à ce sujet-là aujourd'hui. Donc tout ce qui est DHA, EPA, qui sont des oméga 3, où c'est quand même très important de pouvoir se suppléer. Éviter l'alcool aussi régulièrement que possible. Alors oui, on le disait tout à l'heure, il y a aussi la migraine. On dit j'ai la migraine quand on a bu un coup de trop et que le lendemain matin, on a un peu ce qu'on appelle la gueule de bois. C'est pas une migraine, c'est plutôt une déshydratation qui est due à l'alcool. Et voilà, mais une consommation d'alcool régulière peut favoriser la maladie migraineuse. Et éviter aussi, comme le disait Catherine tout à l'heure, certains aliments auxquels on pense pas forcément, mais le chocolat, tout ça, tous ces aliments qui peuvent surcharger aussi un petit peu au niveau hépatique et du coup fatiguer un petit peu le corps et dilater du coup les vaisseaux, y compris les vaisseaux au niveau des méninges. Et enfin, bah, comme on le disait, éviter les sources de stress, essayer de se relaxer et être dans un milieu de vie, j'ai envie de dire, le plus possible accueillant pour le sens de la vie qui fait bah, que, voilà, de ne pas être trop surexcité, surmené et dans des endroits plutôt paisibles. Ça fait rêver ce que je dis. Hein, mais...
Non, mais... En Bauge, quoi.
Ouais, c'est ça, dans les Bauges. Dans les... Non, mais vous pouvez en piocher, allez, 2-3 déjà. Dans la liste.
Ouais. C'est une maladie pour laquelle les gens, enfin la plupart des gens que je connais qui ont cette maladie vivent avec. Ouais. Et c'est rare qu'ils aillent voir un médecin, mais est-ce que Catherine, il y a des moments où c'est important d'aller consulter ?
Oui, parce que si on souffre de migraine, le médecin peut vous apporter quand même une aide pour avoir un traitement le plus adapté, pour éviter l'automédication et en plus bien s'agir que c'est des migraines. Pour faire un diagnostic différentiel. Si vous êtes enceinte, si vous avez une grosse perturbation de votre vie sociale, scolaire ou professionnelle, si vous avez des contraceptifs, si vous prenez déjà des traitements pour éviter une automédication, pour éviter les risques, quoi, en fin de compte, liés à l'interaction entre différents traitements. Et quand on prend des traitements soi-même, quand on a une automédication, pour soulager la douleur, il faut bien aussi repérer les effets indésirables et de voir son médecin permet d'adapter au mieux le traitement. Et un traitement est toujours individuel, individualisé.
Et est-ce qu'il y a quelques fois où un mal de tête nécessite d'aller consulter très rapidement ?
Oui, donc la migraine en soi, si vous savez que vous êtes migraineux, que vous savez repérer vos migraines, donc ce n'est pas nécessite pas d'avis médical immédiat, mais par contre, si vous avez vraiment une certaine douleur de tête qui sont importantes, inhabituelles, là, il faut consulter, ça peut être une urgence.
Et Edmond, en cas de migraine, qu'est-ce qu'il faut faire, justement, avant une consultation, si on sait qu'on est migraineux ?
Alors, il y a une très bonne habitude à prendre, c'est de noter le calendrier des crises et le calendrier de ce qui se passe, à quelle date, combien de temps dure la crise et quel type d'automédication on a pu prendre. Ça, c'est important parce que ça va guider en fait le professionnel de santé dans son orientation et dans son diagnostic. Et ça, ce sont des éléments qui sont très importants. Et c'est vrai que bien souvent, si vous allez voir au bout d'un mois votre médecin parce que vous avez régulièrement des migraines, vous n'allez pas vous souvenir... des jours où c'est arrivé, des conditions dans lesquelles ça s'est fait, du type de médicament et de la quantité que vous avez pris. Et ça, c'est un point très, très important.
Et tu l'as dit tout à l'heure, on peut s'automédiquer soit avec des anti-inflammatoires, soit avec du paracétamol. Un médecin va pouvoir prescrire d'autres choses ?
Alors effectivement, il y a l'automédication, il y a finalement les médicaments qu'on connaît tous hein, pour traiter ce qu'on appelle le mal de tête. Mais par contre, votre médecin peut vous prescrire des médicaments spécifiques à la migraine avec ordonnance qu'on appelle triptan. Et en fait, ces médicaments peuvent se révéler efficaces quand les autres médicaments d'automédication ne font pas effet. Et ça, c'est important aussi. Et c'est un outil qui est à disposition du médecin qui peut permettre de faire une prescription avec un triptan qui va soulager en fait la douleur migraineuse.
Et est-ce qu'il y a des traitements de fond qui existent ou il y a juste un traitement en cas de crise qui est disponible ?
Alors en fait, le traitement de fond, il ne va pas supprimer les crises migraineuses, mais il peut les rendre moins fréquentes et moins intenses, moins douloureuses. Il peut être prescrit en fonction de la fréquence et de l'intensité. Quand vraiment les crises migraineuses sont insupportables, bah effectivement, on peut avoir un traitement de fond qui permet non pas de les supprimer complètement, mais en tout cas de les rendre supportables. Parce que comme l'a dit Maud tout à l'heure, je pense que c'est malheureusement le type de pathologie qui peut devenir insupportable. Et puis aussi pour éviter l'abus de médicaments antimigraineux quand on a une crise. Le fait d'avoir un traitement long cours, finalement, ça va atténuer les crises et ça sera plus supportable d'avoir une migraine qui sera moins douloureuse et qui, finalement, avec un traitement de fond, sera prise en charge au moins au niveau de l'intensité de la douleur.
Et Catherine, est-ce que il y a des remèdes de grand-mère ou des remèdes naturels contre la migraine ?
Oui, oui, il y a aussi des remèdes naturels. Alors, il y a certaines approches naturelles qui peuvent aider à réduire la fréquence ou l'intensité des migraines. Elles sont généralement utilisées en complément du traitement médical et doivent être adaptées à chaque personne. Donc, c'est non exhaustif. Il y a le magnésium qui joue un rôle important dans le fonctionnement du système nerveux et dans la régulation de l'activité des neurones. Il y a aussi la vitamine B2. Donc, cette vitamine participe à la production d'énergie dans les cellules, notamment dans le cerveau. Nous avons aussi la coenzyme Q10 qui intervient dans la production d'énergie cellulaire et possède également des propriétés antioxydantes. Et nous avons toutes les médecines dites alternatives, parallèles, acupuncture, homéopathie, méditation, yoga, respiration en conscience, qui peuvent apporter une détente et un apaisement, et une hygiène de vie aussi, pour permettre de réguler et de baisser le niveau de stress.
Donc ce que nous dit Catherine, Maud, c'est que on fait quoi ? On vit avec la migraine ?
J'ai envie de te dire, malheureusement, oui, on vit avec la migraine puisque c'est quelque chose qui est quand même là et qui est difficile à guérir en soi, mais on peut agir sur les facteurs déclenchants. En général, on connaît quand même assez bien, pour en avoir fait quelques-unes, on connaît au bout d'un moment ce qui les provoque et on a tendance à surtout les prendre en charge assez rapidement. On a des petits signes évocateurs et ça, c'est important d'être à l'écoute de son corps. Quelque chose qu'on n'a pas évoqué quand même là aujourd'hui, c'est le coût en fait de la migraine pour soi, pour la société. Il y a l'automédication qui fait qu'on a tendance à acheter alors à la fois les antalgiques, c'est parce qu'ils coûtent le plus cher, mais en tout cas des petites choses, voilà, ça peut être des huiles essentielles, on peut faire des compléments alimentaires, on peut aussi aller dans des consultations spécialisées, donc ça a un réel coût, mais aussi un réel coût sur la société, étant donné que on va être plus absent au travail ou moins attentif, et puis des médicaments quand même quand on est pris en charge qui coûtent quand même relativement cher. Donc agir quand même sur le fond et sur ses habitudes de vie, ça peut déjà permettre de maîtriser un petit peu les crises migraineuses, qui restent quand même des troubles très fréquents, qui sont assez difficiles à comprendre et à gérer au quotidien. C'est des douleurs qui sont vraiment insupportables. Et mieux identifier ces crises, les déclencheurs, les évolutions, ça peut déjà aider à les contrôler. Et c'est un peu dans cette optique-là de se dire, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à la CPTS, pour aider les patients migraineux ? On a réfléchi et on s'est dit, pourquoi pas mettre en place ce carnet de surveillance ? Donc, on travaille actuellement dessus, de pouvoir proposer un carnet en libre service, j'ai envie de dire, aux patients, aux personnes qui ont des migraines, pour qu'elles puissent identifier, noter, voir les émotions, ce qu'elles ont mangé, la nature des crises, l'intensité, qu'est-ce qu'elles ont pris comme médicaments, etc. Pour à la fois permettre aux personnes peut-être d'identifier des choses et d'agir dessus. Et si il doit y avoir consultation, de pouvoir orienter le professionnel de santé plus rapidement pour une prise en charge plus efficace. Voilà, donc c'est un petit outil à la hauteur de ce qu'on peut faire sur une pathologie qui est quand même assez banalisée, comme on l'a vu un petit peu en introduction de façon amusante. Mais l'idée, c'est de plus avoir d'excuses pour aller voir les copains.
Merci Maud, Catherine, Edmond.
Merci.
Merci. Merci.
Retrouvez tous les renseignements sur la CPTS des Bouges, ses actions, ses professionnels et ses messages de prévention sur www.radioalto.info à la rubrique Émission des partenaires.